à toutes et à tous, bienvenue sur BAC FM fréquence 106.1. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Romain Gélos, chargé de mission biodiversité à la MELA, la Maison de l'Environnement entre Loire et Allier, basée à Saint-Éloi. Monsieur Gélos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Tout d'abord, pouvez-vous informer nos auditeurs sur le rôle de cette association dont vous êtes membre ?
Alors l'association MELA, c'est une association qui concerne surtout la sensibilisation à l'environnement, la protection de la nature de manière générale. Elle a beaucoup de missions, mais surtout de beaucoup de sensibiliser les jeunes à cette nature qui existe autour de chez nous.
Très bien. La MELA a été créée en 2002. De votre côté, depuis combien de temps en êtes-vous membre et quelle est votre fonction au sein de cette association ?
Alors moi, j'ai commencé à travailler dans l'association MELA en tant que stagiaire, puisque l'association forme aussi beaucoup de jeunes étudiants. Moi, c'est comme ça que je suis rentré et que j'ai découvert cette association. Et puis ensuite, j'ai été salarié de l'association depuis 2010 que j'ai découvert cette association.
D'accord. Et donc actuellement, vous êtes chargé de mission biodiversité. En quoi ça consiste à peu près ?
Alors, chargé de mission biodiversité, c'est une mission globale qui tourne autour de l'environnement puisque l'association a de multiples facettes, de multiples actions qu'elle mène sur le territoire. Ça peut être en effet de la préservation de la nature avec des missions spécifiques comme par exemple la replantation de haies ou l'entretien de mares, la restauration de mares, la plantation de vergers de biodiversité. Et puis à côté de ça, on a aussi d'autres missions qui se tournent plus sur de l'animation nature, la sensibilisation du public. Et pour ça, on intervient dans les écoles de la Nièvre, sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps périscolaire. Et puis, on peut également proposer des sorties pour le grand public, pour qu'ils puissent découvrir la biodiversité dans la Nièvre.
D'accord. Donc, vous nous avez aussi dit que vous aviez commencé en tant que stagiaire. Comment est organisée la MELA ? Est-ce que ce sont des salariés ou encore des bénévoles qui travaillent sur les différents projets ?
Alors, l'association, il y a un salarié dans l'association, donc c'est moi-même, et après, autour gravitent des bénévoles, notamment les membres du conseil d'administration, qui sont plutôt actifs dans l'association, mais aussi d'autres bénévoles qui sont actifs, eux, à l'échelle pratique, c'est-à-dire qu'ils viennent nous aider ponctuellement sur des actions qu'on peut mener. Voilà. Et puis, bien sûr, on accueille, comme je le disais au début, des jeunes en formation. Alors, soit ça peut être des personnes en service civique, soit des stagiaires qui, pendant leurs études, ont besoin de réaliser un stage pratique dans une association sur cette thématique.
Parlons à présent des missions, des actions de cette association. L'une des plus anciennes est la valorisation des mares du Nivernais. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, alors les missions, j'en ai rapidement parlé. Au tout départ, quand l'association a été créée, il y a eu vraiment une volonté de travailler sur le bocage. Le bocage, c'est un milieu naturel qui est emblématique de notre département. Il est encore relativement préservé dans certains endroits et à d'autres, on a pu constater déjà depuis quand même plusieurs dizaines d'années qu'il était en train de régresser. C'est-à-dire qu'en fait, ces milieux composés de prairies, de haies, de bosquets et de cultures, c'est un milieu qui est mélangé et qui a tendance de laisser de plus en plus la place à un milieu uniforme avec principalement de la culture. Et ce qui va laisser disparaître du coup les haies qui sont attenants, mais aussi les mares. Donc les mares, ça fait partie de ces milieux bocagers, c'est des petits points d'eau dans lesquels on retrouve une biodiversité vraiment très importante et assez exceptionnelle avec beaucoup d'espèces protégées. Et malheureusement, ces mares, comme elles n'ont plus d'usage pour les céréaliers, eh ben, elles ont tendance à être comblées et donc les habitants de ces mares-là ont tendance à disparaître.
D'accord. Et donc c'est un projet que vous avez commencé il y a plus de 10 ans, il me semble, et c'est toujours d'actualité. Vous êtes toujours en train de travailler sur ramener de la biodiversité et recenser notamment les mares du Nivernais. Est-ce que ce projet est toujours d'actualité ?
Alors oui, on travaille toujours sur les mares, un peu moins peut-être qu'on l'a fait au début, parce que depuis on s'est beaucoup diversifié aussi sur d'autres actions qu'on a pu mener, notamment des travaux sur les rivières, des études sur la faune ou la flore, ou la partie animation nature qu'on a beaucoup développée, et la gestion aussi de sites naturels, l'aménagement de sites naturels.
D'accord. Donc un autre projet que les locaux ont sûrement déjà entendu parler s'ils n'y sont pas déjà allés, c'est l'Arche de la biodiversité à Saint-Éloi. C'est un lieu qui regroupe plusieurs milieux naturels tels que des forêts, des prairies, des zones humides et des jardins, il me semble. Quels étaient les intérêts de préserver ces lieux ?
Alors justement, quand je parlais de gestion de milieux naturels, l'Arche de la biodiversité, c'est un bon exemple. C'est un milieu naturel qui était à l'abandon quand on l'a découvert, qui se trouve donc sur la commune de Saint-Éloi. C'est la mairie qui en est propriétaire. Et ce site-là, il nous a un peu marqué parce qu'il avait une telle diversité de milieux naturels sur un petit espace assez concentré. On parle quand même de 15 hectares, mais sur un petit espace, on pouvait retrouver plusieurs milieux assez typiques de la Nièvre, comme par exemple les prairies, la haie, les zones humides, les zones de friche, des zones de bois. Voilà, tout ça sur un espace assez concentré et un milieu qui était encore très préservé, puisque en fait, sans usage de l'homme, il a été laissé à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, en ayant découvert ce site, on a souhaité le mettre en valeur pour que le plus grand nombre puisse en profiter et le découvrir. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de l'Arche de la biodiversité, sur lequel on a créé des sentiers nature, des sentiers d'interprétation. Il y a deux sentiers thématiques qui sont ouverts au public toute l'année où on peut se balader.
D'accord. Et sur ces sentiers, il me semble qu'il y a aussi des panneaux éducatifs. Pourquoi avoir misé également sur un aspect donc, pédagogique, éducatif aussi?
Et ben ça a toujours été un objectif de l'association dans toutes les actions qu'elle a menées, c'est-à-dire d'allier ce côté de préservation de la nature avec un volet pédagogie et sensibilisation du public. Et c'est pour ça que ce site a été aménagé. C'est vraiment un site vitrine pour la sensibilisation au public. Donc les gens peuvent se balader, mais en plus, pour qu'ils puissent en profiter et connaître un peu les espèces qu'il peut y avoir sur le site ou plus globalement dans la Nièvre, on a souhaité mettre en place ces panneaux qui sont tout au long de chaque sentier. Chaque panneau a une thématique bien précise qui est développée et qui permet aux gens qui se baladent d'en apprendre un petit peu plus sur la biodiversité, en fait.
Toujours par rapport au projet de l'Arche de la biodiversité, comment ont pu être réalisés les travaux amenant à ce projet? Avez-vous fait appel à des entreprises locales, des acteurs locaux? Comment avez-vous élaboré ça?
Alors ce projet, il a été réfléchi sur plusieurs années et petit à petit, donc on a fait appel à des... il y a eu des études qui ont été réalisées pour justement voir dans quelle direction aller, ce que les gens puissent faire des propositions, notamment de sujets à aborder. Et petit à petit, il y a un projet concret qui a émergé, notamment à travers la réalisation de ces sentiers et d'autres partie pédagogique plus ciblée sur les écoles. Et ensuite est venu le temps de monter financièrement le projet et de faire appel aux entreprises qui étaient plutôt des entreprises spécialisées en capacité de faire ces travaux-là. Et on a réussi à faire appel à uniquement des entreprises de la région pour mener à bien ce projet. Ça a été aussi une volonté dans cette démarche globale. C'était dans la mesure du possible, de faire appel à des gens du coin.
Merci beaucoup, Monsieur Gélos, pour vos réponses. Nous vous incitons alors, chers auditeurs, à découvrir la richesse du site de l'Arche de la biodiversité à Saint-Éloi. Nous allons maintenant marquer une courte pause musicale, le temps d'écouter le morceau « L'hymne de nos campagnes » du groupe Trio, qui est évidemment en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. On se retrouve juste après.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le saigne? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tout les animaux, que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau,
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Nous voilà de retour dans le studio de Bac FM, fréquence 106.1, en compagnie de Romain Gélos, chargé de mission biodiversité à la MELA, la Maison de l'Environnement entre Loire et Allier, qui répond à nos questions en rapport avec cette association et la biodiversité. Nous avons, dans les questions précédentes, abordé le sujet assez vague de la biodiversité sans en expliquer clairement l'importance pour l'environnement. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ?
Alors, c'est une question qui est assez large. La biodiversité, en fait, elle regroupe l'ensemble du vivant, c'est-à-dire aussi bien les animaux que les plantes. Et on se rend compte en les étudiant année après année que tous ces êtres vivants que compose la biodiversité, en fait, résultent d'un équilibre très fragile où chacun est dépendant de l'autre. Et c'est en fait d'un ensemble qu'il faut parler. Et ce qui fait que quand on observe un déséquilibre dans ce système global, c'est là où on se rend compte de l'importance de la biodiversité et de sa fragilité. Et aujourd'hui, on a tendance à ne pas prendre en compte cet ensemble, mais simplement des choses indépendantes, c'est-à-dire qu'on va regarder une espèce précisément, mais pas forcément l'impact et l'importance qu'a cette espèce-là pour toutes les autres autour. Donc c'est ça qui est très important à comprendre et qui permet du coup de... Il faut toujours avoir cette pensée globale sur le sujet, quoi. Et non pas s'attarder sur un seul petit point.
C'est un ensemble, du coup. Nous avons donc évoqué les projets d'aménagement dans des espaces plutôt ruraux auparavant. Qu'en est-il des espaces urbains ? Pourquoi est-ce nécessaire d'y ramener de la biodiversité ?
Les espaces urbains, c'est des espaces qui sont très dénaturés, puisque pour le coup, l'impact, la présence de l'homme, elle est partout. Il n'y a plus beaucoup de nature dans ces espaces urbains, si ce n'est quelques arbres ou quelques brins d'herbe qui restent encore. Malgré tout, les espèces animales et végétales, elles arrivent à s'installer et on voit que la vie a toujours, arrive toujours à trouver un espace quelque part. Les oiseaux viennent en ville, on voit des mammifères. On en a beaucoup parlé pendant le premier confinement, où on voyait justement ce retour de nature dans les villes. Et en fait, c'est important de préserver ces animaux, puisqu'en fait, ils vont aider aussi à réguler l'écosystème urbain. Donc, ils vont jouer un rôle qui est aussi important. Et pour les habitants aussi des villes, avoir une ville qui est vivante avec des plantes et des animaux, c'est vrai que ça, c'est important aussi pour le cadre de vie. Et donc, on ne pourra pas faire revenir toutes les espèces dans les villes, mais par contre, on voit que certaines s'adaptent assez bien à ces milieux, voire même trouvent des similitudes avec leur milieu naturel.
Et sur quel projet avez-vous travaillé pour justement ramener cette biodiversité dans les villes nivernaises ?
Alors, on a fait plusieurs projets, mais je pense à un projet qu'on mène encore actuellement avec la ville de Nevers, où la ville avait cet objectif de mettre en place des nichoirs à oiseaux dans plusieurs parties de la ville, notamment des parcs et jardins. Et du coup, on l'a accompagné dans cette démarche-là, qui a été commencée il y a maintenant 4 ans. Et donc, on installe régulièrement des nouveaux nichoirs dans des nouveaux endroits de la ville. Et c'est des petites choses qui aident à accueillir justement cette biodiversité, là notamment des oiseaux. Puisqu'en gros, on leur offre un lieu où ils vont pouvoir se reproduire et ensuite se développer dans la ville. Donc c'est une opération qui me semble très intéressante. Et là, l'objectif de cette année, ça a été de diversifier notamment les nichoirs qu'on a mis en place dans la ville, donc pour accueillir de plus en plus d'espèces différentes. Toujours en s'assurant que ce sont des espèces qui peuvent fréquenter ce milieu.
Est-ce que ces projets ont porté leurs fruits ? Est-ce que vous avez remarqué un retour de biodiversité dans ces villes, justement, de Nevers, justement ?
Eh bien, oui. En fait, ce projet d'installation des nichoirs, il s'accompagne aussi d'un plan d'accompagnement, c'est-à-dire de suivi des nichoirs pour s'assurer de l'efficacité de la mesure et donc voir si les nichoirs sont bien occupés par des oiseaux. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des nichoirs qui sont implantés sont occupés par les oiseaux. Donc, en fait, il y a de la reproduction et chaque année des oisillons qui arrivent à naître de ces installations. Donc, on voit que ça répond en fait à une demande de biodiversité, une demande des oiseaux qui sont présents sur place. Ça marche pas à chaque fois. Des fois, il faut un petit peu de temps pour que les animaux s'habituent à cet aménagement qu'ils l'utilisent. Il y a d'autres animaux qui sont un peu plus frileux, pour qui c'est plus difficile d'utiliser ces nichoirs. Mais globalement, on peut dire que ça a été une réussite, cette opération. Et c'est pour ça qu'elle est poursuivie et même agrandie. On augmente toujours le nombre de nichoirs d'année en année.
D'un point de vue plus personnel, pour vous, quel est le projet qui a le mieux fonctionné et celui qui vous a le plus élaboré, pardon, et celui dont les locaux sont les plus satisfaits?
Il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants. Moi, à titre personnel, tous les projets qu'on mène dans l'association, ils me semblent pertinents, ils ont tous leur place. Après, il y a peut-être, s'il faut en choisir un, c'est un des premiers qu'on a mené, ça a été la replantation de haies, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très symbolique. Les haies, c'est des milieux naturels qui, comme je le disais, avec ces milieux bocagers, ont tendance à disparaître dans le département. Alors, disparaître, c'est un grand mot, mais du moins à réduire très fortement. Alors qu'en fait, c'est des milieux dans lesquels des milieux où vivent énormément d'espèces différentes, aussi bien des oiseaux, des mammifères, des insectes, des plantes. Donc ça regroupe beaucoup, beaucoup de biodiversité. C'est des milieux qui vont servir à plein de choses pour ces animaux, notamment des lieux de refuge où ils vont pouvoir s'abriter, des lieux de reproduction, des lieux où ils vont pouvoir se nourrir, se déplacer, se protéger. Donc, pour les animaux, c'est vraiment un milieu naturel qui est très important. Et ça ne l'est pas que pour les animaux, ça l'est aussi pour l'homme, puisque ces haies-là, elles ont été inventées par les agriculteurs, entre autres, qui avaient ce besoin de délimiter les parcelles, mais aussi, ils en ont fait l'usage pour leur bétail, pour les animaux qui sont élevés. Et du coup, c'est un milieu naturel qui est aussi intéressant pour la biodiversité que pour l'homme. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important, de continuer à préserver ces milieux-là. Et les actions de replantation, elles vont dans ce sens de préservation, elles vont même plus loin. Et à chaque fois qu'on replante un bout de haie, on sait que quelques années après, ça sera énormément d'animaux et de plantes qui vont s'installer dans ces milieux-là.
Et par rapport aux locaux, est-ce que des projets comme l'Arche de la biodiversité, dont on a parlé avant, sont-ils satisfaits ? Est-ce qu'ils en profitent ? Est-ce que c'est un atout pour la campagne entre guillemets nivernaise?
Ouais, le projet de l'Arche de la biodiversité, ça c'est un gros projet aussi qui est vraiment très intéressant, qui a mis du temps à être mis en place, mais aujourd'hui on voit qu'il porte vraiment ses fruits. Les habitants se l'imprègnent de plus en plus, notamment les locaux qui vont régulièrement se balader sur les sentiers, et à chaque fois qu'on croise des gens et qu'on échange avec eux, c'est que des choses positives qui en ressortent. C'est un lieu calme, un lieu où on peut faire des observations de nature, on peut se reposer, on peut voir des belles choses, ne serait-ce que des belles plantes ou des très beaux arbres. Donc ça, c'est un projet aussi qui a vraiment beaucoup plu et qui, j'espère, va continuer à plaire. Je vous incite à y aller pour le découvrir.
C'est ce qu'on espère aussi. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter à cette interview par rapport à quoi que ce soit, des projets futurs, par exemple?
Eh ben, prochainement, on va mettre en place, on a une journée citoyenne, c'est des journées qu'on organise régulièrement, ouvertes à tous, notamment aux bénévoles, pour participer à des projets, justement, de préservation de la nature. Et on doit replanter juste un petit bout de haie chez un agriculteur. Donc, c'est des projets assez simples, accessibles à tous. Et donc, le 20 mars, il est prévu de cette prochaine journée citoyenne. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. Il faut simplement venir avec de la bonne humeur et normalement ça tout se passera bien.
D'accord. Merci pour vos réponses, Monsieur Gelos. Pour terminer cette interview, où pouvons-nous vous contacter, par exemple sur les sites web ou est-ce qu'il y a des sites web ou des réseaux sociaux?
Alors on a une page Facebook qui s'appelle Les Amis de Mella où on publie un peu nos dernières actualités. Mais pour nous contacter, le mieux c'est de nous joindre éventuellement par mail à l'adresse de l'association. C'est Mella 58@sfr.fr mela58@sfr.fr ou alors sur notre ligne fixe 03 86 57 75 34.
Très bien, merci beaucoup. N'hésitez donc pas, chers auditeurs, à aller voir les nombreux projets que mène la Mela. Merci Monsieur Julos d'avoir été présent dans le studio Bac FM avec nous aujourd'hui. Ça continue en musique pour vous, chers auditeurs. Bonne journée et à bientôt sur Bac FM.
Merci.